Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.
Zut, j'ai raté le passage. J'ai pris ma valise et je suis venu ici m'embarquer avec la marée. J'ai des rendez-vous un peu partout, à toutes sortes d'époques. Je suis venu à la frontière des vagues, partir à la marée descendante. Mais ici, la mer ne descend pas et ne monte pas. Et me voilà avec mon bagage et mes rendez-vous. Si une valise aquatique peut être énigmatique, diabolique ou magique, elle ne fabrique pas de marée. Depuis toujours, je guette la coïncidence. Je pêche au filet, dans la rivière des mots, des poissons sens. Je vogue au hasard vers les êtres, lieux, histoires, images et musiques. De fil en aiguille, je me pars d'habits d'existence, au fil de ma vie, au fil de l'eau. L'eau chante, la fontaine bruisse. Le ruisseau murmure sur les pierres et dit son histoire. Les vagues détachent en rythme sur le sable le son des galets et des coquillages. Nous voilà bercés, nous voilà enchantés. Alors un peu de musique et quelques contes pour réunir l'ami et l'inconnu par-dessus les mers, pour trouver le goût des lettres et des figures quand on est perdu, quand rien ne marche comme prévu. Il n'y a qu'à suivre le cours de l'eau, en images, en mots et en chansons.
Bonjour, alors la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Paul Coutsy. Paul Coutsy qui est écrivain, graphiste, qui même fait de la musique, enfin compose de la musique et des paroles de chansons. Et ce qu'il nous a lu, c'est un poème qui ouvre son projet, on peut appeler ça comme ça, « La frontière des vagues ». Un projet littéraire, plastique, point de suspension, qu'il va tout de suite vous expliquer. Il a eu l'amabilité, pardon, de nous recevoir chez lui et il nous a tout raconté sur la frontière des vagues. Alors, la frontière des vagues, un beau titre, mais qu'est-ce que c'est au juste la frontière des vagues ?
La frontière des vagues, c'est un projet d'un grand livre. Grand livre, c'est-à-dire qu'il a une certaine taille, c'est pas un livre qu'on met dans la poche. Pourquoi un grand livre ? D'abord parce qu'il y a 11 histoires, des récits, des contes, des nouvelles emboîtées les unes aux autres que j'ai écrites. Le prétexte de ces histoires qui voguent pas mal ici dans la région entre les étangs, Montpellier, les bords de mer, c'est le fil de l'eau. Et dans ces histoires, à la quatrième histoire, surgit une bande dessinée. Une bande dessinée qui s'appelle déjà Flip la Papa Lavasse, donc qui se déroule entre Palavas, les Arresquiers aussi, qui naviguent pas mal. Et également, dans ce grand livre, des chansons originales, chantées par Sonia Bessa avec ses musiciens. Donc voilà, il est multiforme, mais après tout, c'est comme un film. On a des histoires, des images et des sons.
Alors, oui, c'est l'art total ou l'art complet, on pourrait dire.
Oui, on n'est pas en trois dimensions, là, c'est plus dans la tête du lecteur que
alors,
l'auditeur.
Qu'est-ce qui vous a amené à développer tout ça ? Parce que bon, il y a des écrivains qui se contentent d'écrire, il y a des dessinateurs qui se contentent de dessiner, des chanteurs qui se contentent de chanter.
Je ne chante pas.
Voilà, non mais de faire chanter d'autres. Vous êtes, on va pas dire maître chanteur, mais vous faites chanter en tout cas.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené à adopter toutes ces formes de langage, toutes ces formes d'expression ? Quelle formation, quel parcours pour arriver à cet objet
Alors,
assez atypique et complet.
Voilà. Qu'est-ce qui m'a... Bon, on a des idées, des fois, on se demande bien pourquoi. Mais bon, le parcours... au départ, j'ai une formation, j'ai fait des études de sociologie, donc c'est complètement là-dedans, vous voyez très bien. J'ai été également journaliste, rédacteur journaliste. J'étais graphiste, dessinateur, ça depuis très longtemps, réalisateur de films d'animation et de jeux vidéo. Et donc déjà dans des médias qui mélangeaient beaucoup de choses, voilà. Et là, j'ai préféré, pour toutes sortes de raisons, surtout une raison de souplesse et de liberté, donner la place à mon écriture, à mon graphisme, avec une mise en page, parce que comme graphiste, je fais des maquettes. Et le fait d'écrire des chansons, ce n'est pas la première fois. Donc, je vis avec une chanteuse. Et à force, je finis par lui écrire des chansons. Voilà. Donc, c'est un peu la réunion de toutes sortes de pratiques que j'ai développées au fil du temps, tout simplement.
Alors, il y a aussi, parce qu'on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer cet entretien, il y a des disciplines artistiques, on pourrait dire, comme ça, il y a un parcours professionnel, mais il y a plus que ça. Il y a des origines, des rencontres qui ont fait que... est-ce qu'on peut un petit peu évoquer ça?
Les origines, effectivement, sont multiples. Je suis un mélange moi-même de plein d'origines, puisque né d'une mère française, d'un père égyptien, une grand-mère libanaise, et un grand-père syrien, un grand-père lorrain. Il y a aussi des bretons. J'ai vécu avec une anglaise aussi dans ma jeunesse, et puis je vis avec une brésilienne. Donc là, je suis effectivement dans je ne fais pas exprès, je peux vous jurer que je ne le fais pas exprès, c'est comme ça. Donc j'ai toujours été au croisement, à la frontière de beaucoup de choses. Donc, et ce livre en est effectivement un reflet. J'ai beaucoup... pourquoi la frontière des vagues? La frontière des vagues, c'est cette limite entre l'eau et l'air. C'est ce jeu de mouvement entre l'eau et l'air. Entre le vent qui va provoquer la vague ou la faire retomber, aussi le poids et les sons qui se produisent dans tout ça. Donc c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours, j'allais dire, baigné ces voyages, le fait d'avoir vécu aussi dans plusieurs régions. Je suis né à Paris, je vis ici dans la région depuis 35 années. J'avais un parrain suisse et une marraine espagnole aussi, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, tout simplement, le voyage est là depuis toujours, quoi, depuis ma naissance. Et je pense que le fait aussi d'avoir mélangé plusieurs formes, je ne suis pas le premier à l'avoir fait, hein, y a beaucoup de gens qui peuvent mélanger, les auteurs de BD mélangent le texte et le dessin, les auteurs de films d'animation mélangent le dessin, font travailler des musiciens, et les auteurs de films aussi mélangent le texte et la musique et les images. Donc là, je n'ai pas inventé la poudre. Disons que j'ai basculé beaucoup entre la parole et le graphisme, avec des périodes où j'étais déçu des mots, où je ne voulais plus parler, je parlais à tout le monde, mais je ne voulais plus écrire, et je ne faisais plus que dessiner. Et une période où je me suis remis à aimer les mots, comme je les avais beaucoup aimés dès ma petite enfance, où je lisais énormément, où j'aimais bien dire des poèmes.
Voilà, un projet ambitieux qui croise beaucoup de choses, mais d'où c'est parti?
Le point de départ du projet, c'est, disons, une observation des coïncidences et une observation des relations qu'il y a entre des événements qui m'ont concerné, que j'ai vécu, le hasard, qui pour moi est un... qui bien sûr n'existe pas, mais qui est un grand maître des circonstances et du destin qu'on peut vivre, cette espèce de d'observation qui va amener à vouloir témoigner, à vouloir raconter, à vouloir raconter des histoires qui sont des histoires étonnantes. Mais aussi... une imagination qui va permettre de compter et non plus de raconter, c'est-à-dire de partir, de faire des raccourcis entre des histoires de toutes sortes d'époques et aussi des histoires un peu fantastiques, puisqu'il y a des têtards géants qui se baignent dans les réservoirs d'eau de la ville de Paris, par exemple. Mais tout ça, à un moment donné, je suis le fil de ma... De mon imagination, c'est l'écriture. Là, c'est l'écriture qui va m'emmener, elle, dans des histoires soit fantastiques, soit un peu science-fiction, soit des histoires, je dirais, presque complètement vraies, mais qui se parlent les unes aux autres, puisque dans ces 11 histoires, il y a un petit fil conducteur. Le prétexte, c'est le fil de l'eau, mais si on réfléchit bien, L'eau, c'est la vie, bien entendu. On est dans l'eau, puisqu'avant de naître, on est dans l'eau. On sort, on a perdu, on perd un espèce de cocon aquatique, puisqu'on on grandit dans l'eau. Naître, c'est aussi sortir de l'œuf, c'est sortir de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un passage, comme tous les mammifères terrestres, on a quitté l'eau, et on sait que la vie des animaux est née aussi dans l'eau. C'est quelque chose qui est très important. Alors le son, tout ça, le rapport au son. Il y a un ouvrage de Pascal Quignard aussi qui m'avait motivé à me lancer dans cette écriture, qui était Boutès Sota. C'est juste une nouvelle, je ne sais plus dans quel recueil c'est, où il raconte l'histoire d'un des Argonautes, Orphée avec les Argonautes, croise des sirènes. Les sirènes, à l'époque des Grecs, étaient des grands oiseaux avec une tête de femme et des seins de femme et avec des griffes féroces qui, effectivement, chantaient, envoûtaient les marins. Et on connaît l'histoire d'Ulysse qui s'accroche au mât.
Avec le Caribe des sirènes.
Voilà. Et dans ce récit, que j'ai aussi retrouvé d'ailleurs dans la mythologie grecque, il y a 40 environ, 40, pas voleurs, mais 40 rameurs. Et il y a un dénommé Boutès qui rame, il y a Orphée qui chante pour couvrir le chant des sirènes, qui se bat contre les sirènes. Et Boutès, il craque. Il veut retourner au début de la vie, au début, avant la naissance, il veut retourner dans l'eau. Il se jette dans l'eau, les sirènes tombent dessus, le déchirent, mais, il y a la reine des eaux qui est Aphrodite, mais qui est aussi Yemanja, la déesse africaine et cubaine et brésilienne, qui va le sauver et l'emmener à Palerme et va avoir une nouvelle vie. Voilà. Et donc, c'est ce rapport entre l'eau comme source de vie, mais également comme impossible retour, je crois que c'est ce qui a alimenté l'ensemble de ces nouvelles.
Alors, des nouvelles, il n'y a pas vraiment un fil conducteur ou c'est un fil un petit peu ténu?
Alors, il était fois...
Ou qui se tisse au fur et à mesure que les récits avancent?
Voilà, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les récits avancent, on va se dire, tiens, on a déjà vu ce personnage, on en a parlé. Ou, des fois, c'est très très évident. On retrouve carrément toute une série de personnages, mais qu'on avait vu dans une autre configuration, dans une autre histoire. Et puis, des fois, c'est plus subtil. La fin, la 11e nouvelle étant un peu la constitution, la reconstitution légère et rapide, pas rapide, mais disons éphémère, de l'ensemble du puzzle.
Alors, vous disiez tout à l'heure, il y a comme ça, dans le quatrième récit, je crois, il y a la BD qui surgit. Alors, déjà, vous dites qui surgit.
C'est ma façon de parler.
Non, mais j'ai tout de suite eu l'image de Vénus sortant des eaux ou quelque chose comme ça.
Voilà.
Alors, pourquoi c'est tout d'un coup, dans un récit, la forme BD s'est imposée?
En fait, la BD, cette BD-là est un vieux projet. Et j'ai jamais réussi à la mettre nulle part dans ma tête, hein, c'est-à-dire que je n'étais pas passé à l'action pour la réaliser. Et elle arrive à la suite des mots, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, le personnage qui suit le lèse, qui va et en plus les histoires précédentes lui permettent de rentrer dedans, parce que il y a des personnages de la BD qu'on va retrouver avant et après, mais avant et après, ils sont dans les mots. Et donc, à un moment donné, ben, je raconte une histoire, et je raconte une histoire qu'il va y avoir une BD, et la BD est là. Voilà, tout simplement. Pourquoi j'ai fait comme ça, ne me demandez pas, je ne sais pas, ça m'a plu de le faire comme ça, voilà.
C'est une bonne raison, c'est même une excellente raison. Après, ça peut dérouter le lecteur habituel, mais bon, ça peut aussi le séduire complètement. Avoir quelque chose qui se construit quasiment au fil de la lecture.
Oui, tout à fait. La BD est annoncée d'une certaine façon, puisqu'il va reconnaître des personnages dont il a entendu parler avant, mais complètement dans une autre époque.
Alors on l'a dit, du texte, du dessin et de la chanson. Mais pourquoi de la chanson?
En fait, j'avais déjà fait l'expérience sur un précédent projet qui était Voyage d'été, l'hiver à Niterói, où on avait, là c'était autour d'un récit de voyage, donc la forme était plus simple, et j'avais envie de mettre des chansons originales chantées par Sonia et ses musiciens. Et j'ai voulu recommencer parce que j'adore la chanson. Et ce livre aussi est parsemé des textes des chansons et des textes et de certains poèmes. Donc les textes des chansons renvoient aussi à l'histoire et vice-versa. Et je trouve que ça forme tout ça, ça forme un univers.
C'est un récit, des récits qui se passent dans les étangs au sud de Montpellier. C'est étonnant, cette attirance pour les étangs. Rappelez-vous, il y a peu de temps, nous avions reçu dans cette émission Charles Aubert, hein, qui a écrit Bleu Calypso, un polar soft qui se passe aussi dans les étangs. Alors, qu'est-ce qui attire Paul Coutsy dans les étangs ?
Pour moi, les étangs, c'est comme un miroir où se reflètent toutes et où disparaissent, mais jamais vraiment disparu, toutes les histoires du monde. C'est comme un immense miroir et le monde entier s'y cache. J'ai été fasciné quand je suis arrivé à Montpellier. La première fois que je suis venu à Montpellier, c'était en 79. Je suis revenu en 82, puis je me suis installé en 83. À cause d'un film que j'ai fait, c'était Les Aventures de Tintin à Montpellier. Mais tout de suite après, j'ai dessiné et j'ai commencé à écrire des histoires qu'on retrouve maintenant sur les étangs et les personnages qui sont dans la BD. Et donc, il y a une véritable poésie. Je me rappelle avoir fait à pied depuis Palavas jusqu'aux Arresquiers, marcher le long du canal aussi, par un jour d'orage. Et là, on est vraiment sur un tout petit filet de terre entre ciel et eau. Et avec ce mélange d'eau douce, si on suit les bords du Lez, qui va se mélanger avec l'eau saumâtre des étangs et la mer qui est pas loin, derrière le petit cordon. C'est extrêmement graphique aussi, pour moi. C'est un plaisir, ça m'a toujours extrêmement attiré au niveau dessin.
Bien, bah peut-être vous allez nous donner envie, ou à nos auditeurs en tout cas, d'aller y faire un tour.
Ah bah oui.
Pas forcément quand il y a du soleil et plein de touristes, mais plutôt à d'autres moments de l'année où c'est plus calme.
Ou plus calme, ou plus venteux, ou plus orageux, ou plus pluvieux, ou plus tempétueux.
Voilà. C'est vrai que le gris des nuages qui se reflète sur l'eau des étangs, c'est quand même quelque chose. C'est un spectacle qu'on ne voit pas partout.
Tout à fait, ouais, c'est magnifique. Mais avec le ciel bleu aussi, parce qu'il y a le côté miroir. Il y a ces vieux poteaux de bois où il y a des petits gabions ou des mouettes.
Des goélands.
Ou des goélands qui nous regardent d'un air moqueur. Hein. C'est vrai que c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Et puis, de temps en temps, passent des hérons et des aigrettes aussi.
Tout à fait. Et alors, c'est plein de poissons, c'est plein de vie.
Qu'on voit les éclaboussures.
Les éclaboussures, ça frétille de partout. Ouais. C'est extrêmement vivant.
Voilà, on comprend qu'un écrivain, graphiste, soit attiré par ce milieu-là.
Je crois que c'est ce milieu-là qui m'a poussé à dessiner, à écrire. Je le faisais déjà, mais de cette façon-là.
Voilà, un objet qui n'existe pas encore. On vous parle pour une fois d'un livre qui n'existe pas encore. Un livre, pas seulement un livre, mais vous pouvez participer à son élaboration.
Le principe pour moi, ce que je propose, c'est un système en fait de pré-achat. Le pré-achat, c'est-à-dire que on commande. Après tout, des gens commandent des livres sur Internet sans les avoir lus. Hein. Donc, jusque-là, ils participent vraiment à la fabrication. Et le coût, c'est quoi le coût ? C'est le coût, effectivement, de la fabrication, de l'impression du livre, sachant que si vous allez sur le site de la subscription, sur KissKissBankBank, vous verrez qu'il y a le grand livre avec la BD, les CD, mais je fais des déclinaisons. On peut aussi acheter la BD toute seule ou le livre en format poche. Et donc, la fabrication impression a un coût. Donc, il faut quand même le couvrir, surtout que c'est un grand format. Il y a la musique, les chansons. Là, ça veut dire du studio. Ce sont des musiciens professionnels. Donc, ils vont être payés. Ils vont avoir un cachet. Bon, ils vont beaucoup travailler sans être payés, mais ils vont quand même être payés quand même. Il y a le studio, il y a l'enregistrement, la fabrication du CD, les droits SDRM, SACEM. Tout ça est compris dans la fabrication du CD. Et j'ai rajouté aussi le coût des expéditions postales, puisque comme c'est une souscription sur Internet, il se trouve qu'il y a des gens qui n'habitent pas à Montpellier, qui n'habitent pas la région, qui habitent ailleurs en France, mais qui habitent aussi à l'étranger. Il y en a déjà qui achètent ou qui vont acheter ce produit, donc il faut l'envoyer par la poste.
Alors, pour les auditeurs qui seraient intéressés, vous parliez d'un site pour la souscription. Alors,
KissKissBankBank. KissKissBankBank.
Donc, ouais. KissKiss avec un
K-I-2-S. 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 B-A-N-K. B-A-N-K. KissKissBankBank. Alors, par contre, le projet lui-même, le nom du projet, c'est La Frontière des Vagues.
La Frontière des Vagues. Donc, vous faites ça sur votre moteur de recherche préféré et...
Ça marche.
Vous allez trouver, ce sera en bonne place et vous aurez des illustrations. On pourra déjà voir quelques images un petit peu.
Il y a une petite vidéo où on me voit parler, il y a présenté le projet, il y a effectivement des images de ce que sera le livre. Donc, c'est une figuration du prochain livre et du futur livre. Et quelques images de la bande dessinée. Alors après, on peut aussi les trouver si vous êtes sur Facebook. Je dis Facebook tout le temps. On peut aussi trouver pas mal.
Je crois que pas mal de gens l'appellent
comme ça. Facebook. Et donc on peut aussi le trouver là. Vous faites aussi Paul Koutsi sur Google, on trouve aussi.
D'accord. Alors, il va y avoir, on a dit, c'est pluridisciplinaire. Du coup, il y a aussi un certain nombre d'événements qui accompagnent. Alors, je n'irai pas la publication, mais la pré-publication.
La campagne de souscription, hein, le pré-achat.
Pour ceux qui nous écoutent, si nous ne sommes pas déjà samedi, vous aurez dans ce cas-là raté un des événements.
Il y en aura un autre
samedi
jeudi d'après.
Samedi 30 mars.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui se passe samedi 30 mars, quoi et où?
Alors, samedi 30 mars de 15h à 18h, c'est une rencontre sur le thème du fil de l'eau et autour de la souscription. Il y a une exposition avec des planches et des tableaux donc, qui font partie de ce projet.
Et ça se passe où alors?
Alors ça se passe à la librairie Tapuscrit, 7 rue Raoult, à Montpellier. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont tort, il faut aller dans cette librairie. C'est un lieu vraiment, vraiment très très sympa où il se passe énormément de choses.
Vous nous en aviez parlé dans une émission.
Voilà, ben, je répète, on insiste. Et donc c'est tout en haut de Clémenceau, et c'est la petite rue qui lie le haut de Clémenceau après un loueur, je ne vais pas faire de pub, de voitures et de camions, et qui va relier avec le début du boulevard Renouvier. Voilà. Et donc non seulement il y a une exposition, mais il y aura, je vais lire des extraits du livre et d'autres auteurs, et également il y aura de la chanson, et aussi de la musique, de la flûte traversière.
Et pour ceux qui auraient raté...
Alors, à Montpellier toujours, le 4 avril, là, c'est un salon de coiffure qui est vraiment très, très sympathique, un petit salon de coiffure qui est rue La Péronie, et qui s'appelle le Jeu de Paume. C'est au 4 rue La Péronie. Et on va faire un événement à 18h30 aussi, de lecture. Là, il n'y a pas d'expo, mais lecture musicale et rencontre et peau, voilà. À 18h30. Et pour ceux qui habitent du côté de Limoux, le 19 avril, on est aussi à Villelongue d'Aude, qui se trouve voilà. À côté de Limoux. Après, il y a d'autres événements, mais c'est peut-être un peu tôt.
19 avril, Villelongue d'Aude, ouais. On peut le dire, pas forcément... Enfin, nos auditeurs ont peut-être des amis qui sont...
Oui, ça s'appelle... C'est Au Vert à Soif, très exactement.
Au Vert à Soif.
Au Vert à Soif, qui est un café littéraire, un bar associatif et littéraire très sympathique. Et donc, ça démarre à 20h.
Ouais. Voilà, donc une information à faire passer à vos amis qui seraient
voilà.
Dans
et
cette
puis,
région-là.
Si vous suivez, que ce soit le site où vous suivez effectivement mon actualité sur Facebook, il y aura aussi des événements au mois de mai.
Donc, à suivre, vous nous donnerez les infos et puis on essaiera de les relayer dans le cadre
tout
de cette
fait.
Émission.
Et puis sinon, souscrivez tout de suite. Hein. C'est pas la peine d'attendre.
Pas la peine d'attendre.
Non.
Puis vous pouvez souscrire en fonction de vos moyens, de vos convictions.
Tout à fait. Ça démarre à 5 euros. Donc,
voilà.
Après, il y a des sommes libres. On peut même mettre de l'argent. Le principe, c'est que en échange de tout souscription, il y a un objet. Donc ça va de 5 cartes postales à un poster, en passant par un livre de poche, en passant par le grand livre. Et je vends aussi des tableaux et les planches de la BD.
Les originaux, donc.
Ah, les originaux, tout à fait.
Voilà. Bien, merci Paul Koutsi. Et puis, on souhaite bon succès à cette souscription.
Merci Marc.
Merci à ces événements aussi.
Oui, oui. Mais merci à Marc. Merci à Divergence. Merci Marc. Et merci à tous les auditeurs qui voudront bien
soutenir
venir aux événements. Voilà. Ça sera un grand plaisir de les recevoir.
Voilà, donc Paul Coutsier nous a accueillis récemment chez lui pour nous parler de son projet La frontière des vagues. Alors tout à fait autre chose. Maintenant, nous allons revenir à notre petit inventaire, petite revue de détails des auteurs suisses qui vont venir à la Comédie du Livre. Alors, je vous avais parlé de Mark Woltenhauer dans une précédente émission, un auteur de polar. Et puis là, je vais rester dans un domaine proche, dans le noir. Mais alors, vraiment le noir de noir avec Joseph Incardona. Alors, un auteur qu'on connaît peu en France, pourtant il a remporté un prix, il est même édité en poche en France, il a remporté le prix de la littérature policière avec Derrière les panneaux il y a des hommes, qui a été édité maintenant en presse pocket, donc en poche. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est du roman noir, mais vraiment noir, noir, noir. Hein. Alors bien sûr, il y a de la mort, il y a de la violence, il y a du sexe, il y a du désespoir, il y a des marginaux en tout genre, désespérément ordinaires, des gens au bout du rouleau, mais qui essayent de survivre, qui essayent de tenir et qui finissent par avoir une certaine grandeur. Hein. Alors, certains l'ont étiqueté comme auteur de thriller. Bon, peut-être pas tant que ça. Hein. Il est publié notamment, il y a 2 volumes publiés chez un éditeur de thriller, Milady, qui a publié 220 volts et Trash Circus. Alors, son premier roman, il remonte à 2002, Le cul entre deux chaises. Et puis, les derniers, on va dire, ce sont Permissé et Chaleur. Alors, Permissé, ça, c'est sur l'immigration en Suisse. C'est publié, c'est un éditeur qu'on trouve difficilement en France chez BSN Press, c'est un éditeur suisse, le nom ne le laisse pas imaginer, mais c'est le cas. Et puis un autre qui s'appelle Chaleur, qui a été publié aux éditions Finitude, ça c'est un éditeur français. Alors pour vous donner un exemple, qu'est-ce que c'est Chaleur ? Chaleur, ça se passe dans quelque chose qui est tout à fait réel, qui a existé, des concours de sauna. On n'imagine pas que ça existe. Si, en Finlande, ça existe, des concours de sauna. Et Joseph Incardona s'appuie sur un événement réel. Un de ces concours de sauna s'est très mal terminé. Ça a été la dernière édition parce qu'un des concurrents est décédé. Dans un sauna, normalement c'est 90 degrés, les saunas, là ils montaient la température à 110 et plus. Et celui qui tenait le plus longtemps avait gagné le concours. Concours absolument stupide, il y en a beaucoup comme ça, des concours stupides, finlandais. Alors il nous écrit ça et ces personnages complètement fous, stupides, finissent par atteindre une certaine grandeur. Alors dans Derrière les panneaux il y a des hommes, Joseph Incardona n'y va pas avec le dos de la cuillère, si je puis dire, ou avec le dos du clavier. Il s'intéresse à des laissés pour compte. On est dans le monde des autoroutes, oui, des aires d'autoroute, mais de ces marginaux, de ces gens qui se perdent, qui travaillent sur les aires d'autoroute. Oui, derrière les panneaux, il y a des hommes qui travaillent, effectivement. Mais c'est le domaine des combines, de la misère, des laissés pour compte, qui vivent sur des aires d'autoroute. Notamment un qui a été médecin légiste, qui va être un peu le fil conducteur de Derrière les panneaux, il y a des hommes, mais qui n'est plus médecin légiste parce que sa fille a disparu sur une aire d'autoroute. Elle a littéralement disparu. Et puis, y a des disparitions qui continuent sur les aires d'autoroute. Et où il y a le culot d'Incardona, j'ai envie de dire, il va aller chercher un de ses personnages qui est celui qui enlève les enfants sur l'aire d'autoroute. Personnage un peu compliqué, mais il y va, et avec une écriture très forte. C'est pas littéraire, si je puis dire, ou alors c'est du littéraire à la Céline, avec des phrases fragmentaires, des phrases-mots, des choses très courtes qui frappent, qui peuvent être un peu désordonnées. Comme on pense, quoi. On pense pas en faisant des phrases, on pense avec des mots-clés, avec des images fortes. c'est cette écriture-là que développe Joseph Incardona. Alors, il a été aussi adapté en bande dessinée, notamment 220 volts, une bande dessinée de Sylvain Escalon. Un auteur à découvrir, surtout pour les amateurs de noir très noir, Joseph Incardona. Vous pourrez le rencontrer à la prochaine Comédie du Livre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.